Africa.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, Philippe, roi des Belges, présente des regrets historiques aux Congolais pour les blessures infligées pendant la période coloniale. Vaste opération militaire de la MINUSCA contre les rebelles du mouvement 3R en Centrafrique. Le sommet du G5 Sahel se tient à Nouakchott avec participation de la France pour faire le point sur la lutte contre les djihadistes. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Le roi des Belges a présenté aujourd'hui ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale belge au Congo, une première historique dans le sillage de la vague d'émotions mondiales après la mort de George Floyd aux États-Unis. Eric Manirakiza.
Le roi Philippe, qui règne depuis 2013, a adressé une lettre au président Félix Tshisekedi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Il évoque sans nommer son ancêtre, l'époque de Léopold II, qui a été jugée la plus brutale par les historiens, quand le défunt roi des Belges gérait le Congo et ses richesses comme une affaire personnelle. Il affirmait que les actes de violence et de cruauté commis de 1885 à 1908 pèsent encore sur leur mémoire collective. La période coloniale qui a suivi jusqu'en 1960 a également causé des souffrances et des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés, écrit le roi Philippe. J'encourage la réflexion qui est entamée par notre Parlement afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée, ajoute-t-il. Le quotidien Le Soir a salué l'initiative royale dans un éditorial. Enfin, ce geste si nécessaire qui grandit le roi et son pays. Le collectif de militants anticolonialistes et réparant l'histoire a réclamé que toutes les statues en hommage à Léopold II soient retirées à Bruxelles, notamment la statue équestre la plus célèbre, érigée face du palais royal.
Par ailleurs, la Belgique envisage une commission parlementaire sur l'ensemble de son passé colonial au Congo, au Rwanda et au Burundi. Ces regrets historiques ont été salués par le président de la République démocratique du Congo, plusieurs responsables politiques et des ONG. Michel Joseph.
Dans son allocution télévisée hier soir, à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance, le président Félix Tshisekedi, 57 ans, a déclaré que le roi Philippe devait être son invité spécial si la pandémie de Covid-19 n'avait pas annulé toute cérémonie à Kinshasa. Il a rendu hommage au souverain belge qui, dans une lettre, a présenté mardi ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale. C'est une première historique pour un héritier du trône du roi Léopold II, accusé d'avoir tué 10 millions de Congolais entre 1885 et 1908. Ces regrets mettent du baume sur le cœur du peuple congolais, d'après la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marine Toumba Nzeza. Cette repentance tardive ne peut être acceptée qu'après des réparations conséquentes de ces atrocités, ajoute maître Hervé Diakissé, porte-parole du mouvement citoyen congolais debout. Il a aussi invité la Belgique à restituer le patrimoine culturel congolais qui se trouve au musée de Tervuren. Il faut identifier certaines provinces qui ont été vraiment victimes des plus graves exactions, comme l'Équateur, où des gens ont été tués et d'autres ont eu des mains coupées, a déclaré pour sa part Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, l'une des plus anciennes organisations de défense des droits de l'homme.
Toujours en RDC, le président Tshisekedi a fermement mis en garde hier soir ses partenaires de la coalition au pouvoir et a laissé entendre qu'il n'accepterait sous aucun prétexte la réforme du statut des magistrats, très controversée, que des députés pro-Kabila veulent faire adopter à l'Assemblée où ils ont la majorité. En République centrafricaine, des violents affrontements opposent depuis hier les forces de la MINUSCA aux combattants de 3R dans la localité de Kouy, dans l'Ouham-Pendé. Selon des sources non officielles, le chef des 3R, Sidiki Abbas, aurait été tué dans les combats. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Tous feraient partie de l'attaque d'un convoi des casques bleus par les hommes de 3R le lundi 29 juin aux environs de 11h du matin. La riposte a été imminente et s'est poursuivie ce mardi dans la localité de Kouy, un des fiefs de ce groupe armé Peul. Vladimir Montiero, porte-parole de la MINUSCA, la mission de l'ONU.
Hier, aux environs d'11h30, les 3R ont attaqué une patrouille de reconnaissance de la MINUSCA. Il y a eu des échanges de tirs, nos casques bleus ont répondu. Il y a eu un blessé de notre côté. Et les pères auraient été enregistrés du côté des assaillants, y compris la saisie de matériel. Mais les casques bleus sont parvenus à maîtriser la situation et l'opération se poursuit jusqu'à ce que Sidiki Abbas stoppe les attaques contre les casques bleus, contre les populations et surtout contre les forces de défense et de sécurité et qu'il quitte les zones qu'il a occupées après le 6 février 2019.
On ne dispose pas encore d'un bilan exact de ces affrontements, mais certaines sources locales parlent de plusieurs victimes et d'importants dégâts matériels côté 3R. D'autres sources affirment même que Sidiki Abbas, le chef des 3R, serait touché dans les combats. Information à prendre encore avec beaucoup de prudence. Contacté par VOA Afrique, un haut responsable des 3R confirme les lourdes pertes subies par son mouvement, accusant la MINUSCA de les avoir agressés sans raison. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Niger, le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2020 et ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a été remplacé hier à son poste par Alkash Alhada, qui occupe depuis septembre 2019 le portefeuille de ministre délégué à la sécurité publique. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé hier soir la levée dès aujourd'hui du couvre-feu et de l'état d'urgence instauré contre le Covid-19. Les vols internationaux devraient reprendre à partir du 15 juillet, malgré la progression continue de la maladie dans le pays. Au Soudan, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Khartoum et dans d'autres villes du pays pour réclamer des réformes. Les manifestants demandent également que justice soit faite pour les protestataires tués lors du soulèvement populaire en 2019. Ces manifestations ont lieu malgré le couvre-feu en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Nouakchott, les chefs d'État du G5 Sahel se réunissent en présence du Français Emmanuel Macron et du chef du gouvernement espagnol. La chancelière allemande et le secrétaire général de l'ONU participent par vidéoconférence. Le G5 Sahel veut surtout stopper la recrudescence des attaques djihadistes, notamment dans la zone dite des trois frontières, et impliquer davantage les partenaires internationaux pendant la guerre contre le terrorisme au Sahel. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.
Les dirigeants réunis à Nouakchott craignent une expansion et une installation des djihadistes à la frontière mauritano-malienne. Le G5 en est conscient, mais peine à marquer sa présence dans cette zone, comme note le Mauritanien Mohamed Ouldou Razouani, président en exercice de l'organisation.
Nous n'avons pas dégarni au niveau des emprises essentielles en ce qui concerne la présence de la force, des différentes unités de la force conjointe au niveau des frontières communes entre pays.
À Nouakchott, le G5 veut concrétiser les recommandations au sommet de Pau en France en janvier dernier, à savoir concentrer les efforts de lutte contre le terrorisme dans la zone frontalière commune. Mais pour l'ex-diplomate onusien Ahmedou Abdella, au-delà des armées, il faut rétablir la confiance avec les populations du Sahel.
La confiance doit revenir dans tous les G5. Chaque pays doit renforcer la confiance de sa population. Et il doit cesser tout ce qui agace la population. La corruption flagrante, elle mine le moral des politiques et elle détruit celui des militaires.
Quoi qu'il en soit, Le G5 Sahel prépare son offensive dans la zone des trois frontières avec cette fois le soutien de Takuba, une nouvelle unité des forces spéciales européennes annoncée pour cet été par le président Macron qui veut internationaliser la guerre antiterroriste au Sahel en y impliquant davantage l'ONU et les Occidentaux. Mohamed Diop pour Vera Afrique, Marshall.
Épidémie de coronavirus, près de 506 000 morts dans le monde. Aux États-Unis, 4 responsables sanitaires ont témoigné aujourd'hui devant des sénateurs. Le docteur Anthony Fauci, membre de la cellule de crise présidentielle, a affirmé que le nombre de nouveaux cas pourrait bondir à 100 000 par jour. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Ekia Badou.
Initialement prévu le 1er juillet, le lancement effectif de la zone de libre-échange continentale africaine, censée devenir l'espace commercial le plus peuplé du monde, sera reporté à janvier 2021. Les effets de la pandémie de coronavirus et les négociations qui n'ont pas fait de progrès sont les causes de ce retard. Sur le papier, la ZECLAF réunit 54 des 55 pays africains, sauf l'Érythrée, soit 1,2 milliard d'habitants. Elle a été lancée au sommet de l'Union africaine à Niamey il y a un an avec l'objectif de faire progresser les échanges intra-africains pour doper les économies. L'économie de l'Afrique du Sud s'est contractée pour le troisième trimestre consécutif en enregistrant une baisse de 2% du produit intérieur brut au premier trimestre 2020, a annoncé mardi l'Agence nationale des statistiques. Les mines, moins 21,5% et l'industrie, moins 8,5% ont enregistré les plus fortes chutes d'activité au premier trimestre 2020. Pour les mines, il s'agit même de la plus forte baisse en 6 ans. L'Afrique de l'Ouest présente un bilan moins sombre que le reste du continent, essentiellement parce qu'elle est plus agricole et moins exportatrice que les autres zones. Elle offre moins de concentration urbaine aussi, explique Dominique Frutcher, analyste Afrique de COFAS. Sont particulièrement vulnérables les pays dont l'activité est très liée au tourisme et aux hydrocarbures.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La CAF a tranché. Après avoir été reprogrammée entre le 9 janvier et le 6 février, la CAN Cameroun 2021 est encore reportée d'un an, soit à 2022. C'est entre autres l'une des décisions prises par le comité exécutif de la CAF qui s'est réuni en visioconférence de Yaoundé. Voici le compte-rendu d'Emmanuel Jelontap.
C'est le football féminin africain qui a pris le plus sérieux coup au terme des décisions du comité exécutif de la CAF. En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, l'édition 2020 de la CAN féminine a été annulée. Le comité exécutif a néanmoins décidé de créer une Ligue des champions des clubs féminins dès l'an prochain. Par contre, la CAN Total 2021 est repoussée d'un an et devrait se tenir en janvier 2020 au Cameroun. Un an plus tôt, en janvier 2021, le Cameroun va abriter le CHAN, le tournoi continental des footballeurs africains, qui devrait se jouer en avril dernier dans le même pays. Le président de la CAF, Hamad, a néanmoins souligné que le Cameroun est prêt à accueillir ces deux compétitions. Quant aux Coupes d'Afrique des clubs, la saison sportive 2019-2020 va s'achever. Les demi-finales de la Champions League et de la Coupe des Confédérations vont se disputer en Final Tour en septembre prochain. Chaque demi-finale va se disputer en un match unique. La CAF a également décidé de maintenir les compétitions des jeunes. La CAN des moins de 17 ans aura lieu en juillet 2021 et celle des moins de 20 ans. Par ailleurs, l'édition 2020 de la CAF Awards n'aura plus lieu. Le comité exécutif de la CAF annonce avoir alloué une somme de 16,2 millions de dollars américains aux fédérations, soit 300 000 dollars américains par fédération pour leur alléger le fardeau financier consécutif à la COVID-19. Yaoundé, Emmanuel Jelontap, VOA Afrique.
En Angleterre, la Premier League et le syndicat des joueurs professionnels ont créé un programme visant à promouvoir la diversité parmi les entraîneurs. Ce programme ouvert à tout membre de la Premier League noire, asiatique ou issu d'une minorité ethnique offrira chaque saison à 6 jeunes entraîneurs un contrat de 23 mois au sein d'un club de l'English Football League qui organise les 2e à 4e divisions du championnat anglais. Le but est de faciliter la transition des joueurs vers une carrière d'entraîneur. Ce programme débutera dès la saison prochaine. À l'heure actuelle, seuls 6 des 91 entraîneurs et managers de Premier League et de l'English Football League sont issus de minorités.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Burundi, un nouveau gouvernement est mis en place avec beaucoup de ministres issus de la ligne dure du CNDD-FDD au pouvoir. Évariste Ndayishimiye, le nouveau chef de l'État, a pourtant promis une ouverture. Dans quelle mesure pourra-t-il accomplir ? Eddie Sango a joint à Boston le professeur de politique internationale et africaine à Boston University, Noël Twagira-Mungu.
La première chose qui frappe, c'est comment on a vraiment réduit le nombre des ministères. C'est un gouvernement qui comporte juste 15 membres. En termes d'inclusion, on a vu une femme qui représente la minorité bantoue.
Certains analystes pensent que ce gouvernement s'inscrit dans la continuité du régime de Pierre Nkurunziza, bien que celui-ci ne soit plus là. Qu'est-ce que vous en dites ?
Là, c'est sûr, ça. On voit bien qu'il y a une continuité, surtout quand on voit la composition. Le premier ministre, l'autre ministère clé, aussi tenu par un général, toujours le ministère de la Sécurité. On voit qu'il y a aussi des figures qui faisaient déjà partie du gouvernement, comme le ministère de la Santé. Mais là, donc, on voit bien, c'est une continuité, disons, un changement dans la continuité. Bon, ce qui n'étonne pas, bien sûr, parce que c'est le parti au pouvoir qui a gagné les élections, qui reste là. Et puis quand on voit le nouveau président, c'est justement une compagne de route de l'ancien président. C'était un véritable dauphin. Donc là, on voit la continuité. On voit donc là ce changement dans la continuité. Peut-être une chose aussi qu'il faut dire, surtout quand on voit la composition. Donc, un président qui est un général, un premier ministre qui est un général, un ministre de la sécurité qui est aussi vraiment connu dans ses services de sécurité, de renseignement. On voit que la sécurité, c'est probablement une des priorités clés de ce gouvernement. On voit un certain souci à la fois de préserver les acquis du pouvoir en place, mais en même temps de faire une certaine ouverture. Bon, par exemple, on voit maintenant le nouveau ministre des Relations extérieures qui était ambassadeur ici aux États-Unis. On voit que c'est quelqu'un qui connaît les milieux internationaux, il connaît bien l'ONU, les organisations internationales, Washington, New York. Le nouveau ministre des Affaires étrangères qui était un diplomate ici aux États-Unis, et puis on voit le gouvernement en place et dirigé par un général. On voit quand même cet spectre. Il y aura donc ce souci d'aller vers l'ouverture totale.
C'était Noël Twagira-Mungu, professeur de politique internationale et africaine à Boston University.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
La France annonce l'envoi au Sahel d'une nouvelle force, Takuba, composée de forces spéciales européennes à côté de celles conjointes des pays du G5 Sahel pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Concernant l'arrivée de la nouvelle force Takuba, qui vient s'ajouter à l'opération Barkhane et aux soldats du G5 Sahel, notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop, a recueilli l'analyse d'Amidou Oul Abdellah,
ancien fonctionnaire de l'ONU et ancien ministre des Affaires étrangères.
Les militaires, c'est leur culture, veulent travailler dans des cadres précis, donc Force Barkhane, Takuba, qui est ouverte à plus d'autres pays, Force des G5 Sahel. Comme dit l'autre, peu importe le nom, pourvu que le travail puisse être fait. Et là, je suis convaincu que l'Africain moyen, Malien, Burkinabé, Niger, pour parler des pays les plus affectés, et naturellement le Tchad, les au bord du lac Tchad et la Mauritanie est toujours sous menace. Ce que les gens veulent, c'est le travail bien fait, peu importe les noms. Mais ça ajoute toujours, quand il y a de nouveaux éléments, parce qu'ils viennent de pays étrangers, ils veulent un commandement séparé, ils veulent un commandement autonome des Nations Unies, autonome vis-à-vis des forces françaises, ainsi de suite. On peut le comprendre, mais une fois de plus, l'essentiel, c'est le résultat.
Qu'est-ce qui empêche la force conjointe du G5 Sahel d'être vraiment visible sur le terrain?
Écoutez, si vous prenez individuellement, ils sont visibles. Les Tchadiens viennent de opérer des actions militaires assez connues au bord du lac Tchad, qui viennent de nettoyer la partie qui le concerne. Les autres peuvent le faire, mais une fois de plus, il y a des problèmes structurels. Nos armées, pendant longtemps, n'ont pas eu le moyen d'avoir des entraînements réguliers. Or, il n'y a pas de force opérationnelle sans manœuvre régulière. Deuxièmement, il faut des financements. Troisièmement, c'est très important, c'est dans mon article de la Tribune, il faut professionnaliser davantage les armées, pas le recrutement.
Est-ce qu'il y a une vraie implication des populations dans la lutte contre le terrorisme?
Il faut que la population des G5 se sente concernée, qu'elle se sente protégée, qu'il y ait plus d'empathie, de sympathie vis-à-vis de ces populations. Deuxièmement, que toute la classe politique dans chaque pays se sente concernée, que ce ne soit pas seulement des questions de gouvernement, mais c'est une question des gouvernements, oui, parce qu'ils sont élus, ils sont en charge, mais aussi des différents partis politiques, de la société civile, des hommes d'affaires qui travaillent nuit et jour pour mener des activités. Donc, il faut un sursaut national et pour cela, il faut une cohésion nationale. Et la confiance doit revenir dans tous les G5. Chaque pays doit renforcer sa confiance de sa population et il doit cesser tout ce qui agace la population. La corruption flagrante, elle mine et elle détruit celui des militaires qui sont sur le front et quand on leur dit qu'il y a des combines et combinaisons en arrière, ça les démoralise, ça les désintéresse.
C'était Amédou Ould Abdella, ancien fonctionnaire de l'ONU et ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie. La SRAS, la Brigade de Répression Criminelle, est pointée du doigt dans un rapport publié ce week-end par Amnesty International à Abuja. L'ONG affirme que malgré la législation anti-torture adoptée en 2017, les éléments de cette brigade continuent de recourir à la torture et à d'autres mauvais traitements pour exécuter, punir et extraire des informations des suspects. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Dans un nouveau rapport, Amnesty International a documenté au moins 82 cas de torture, de mauvais traitements et d'exécutions extrajudiciaires par la brigade de la répression criminelle SARS entre janvier 2017 et mai 2020. Les victimes de cette unité spéciale de la police nigériane créée pour lutter contre les crimes violents comme le vol à main armée sont majoritairement des jeunes âgés de 18 à 35 ans, précise Amnesty International dans ses nouveaux rapport baptisé « Time to end impunity » ou encore « Le temps de mettre fin à l'impunité ». Issa Sanusi est le directeur de la communication d'Amnesty International Nigeria.
Ce n'est pas la première fois que nous faisons un rapport sur cette redoutable unité de la police nigériane. C'est la troisième fois maintenant. Nos recherches ont montré que le gouvernement nigérian n'a rien fait jusqu'ici pour traduire en justice cette unité de la police. Aucun officier de cette brigade n'a été traduit en justice.
Pour l'Organisation de défense des droits humains, le refus total des autorités nigérianes à mettre un terme aux violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées par l'unité spéciale de la police ou à traduire tout officier en justice est choquant et inacceptable. Beaucoup de Nigériens sont indignés par les violations systématiques des droits humains perpétrées par le SAS en toute impunité. Des manifestations pour la suppression de la brigade spéciale ont eu lieu dans plusieurs États du Nigeria. Dedi Adeyensou est le directeur directeur exécutif du groupe de Nigériens concernés, une des organisations de la société civile ayant appelé plusieurs fois la suppression de la brigade.
Je soutiens la suppression de cette gang criminelle connue sous le nom de SAR. Quelle que soit la façon dont vous étudiez la situation, ce sera au profit des Nigériens. Nous devons commencer à voir depuis le recrutement, leur formation, les circonstances et leurs conditions de travail. Difficile de savoir pour quelles raisons ils commettent toutes ces atrocités, extorquer les gens et même les tueries extrajudiciaires.
Ici, tout le monde est d'accord que la brigade de la répression criminelle est une redoutable unité controversée de la police nigériane à cause de l'utilisation systémique de la torture et d'autres mauvais traitements par ses agents pour les enquêtes policières. La directrice du Centre pour la démocratie et le développement envisage une autre solution pour résoudre le problème. Hidayat Hassan.
Ce qui est aussi important est de ne pas trop insister sur la suppression de la brigade criminelle de la police nigériane. Nous devons plutôt parler plus de la transparence. SARS est une force spéciale qui doit sortir seulement lorsqu'il y a des cas de criminalité pour mener leur enquête dans la clandestinité. Je suis certaine que nous avons des noms de certains officiers de cette unité coupables de crimes. Nous pouvons les traduire en justice.
Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Plusieurs grandes compagnies américaines mettent la main à la pâte en réponse à la vague de manifestations ici aux États-Unis contre le racisme. Elles s'engagent à accroître la diversité au sein de leur personnel, à appuyer les groupes de défense des droits civiques et dans certains cas à changer des politiques longtemps décriées. Julie Tabot fait le point, le récit est de Lionel Gaïma.
Parmi les compagnies désireuses d'aider à résoudre le problème du racisme systémique aux États-Unis figure Reddit, la plateforme de partage et des discussions de contenu. Alexis Ohanian en est le cofondateur.
J'ai démissionné du conseil d'administration de Reddit. Je leur ai demandé de me remplacer avec un candidat noir.
Ohanian est marié à la joueuse de tennis africaine-américaine Serena Williams, avec qui il a une fillette. Même sans connexion directe avec la communauté noire, certains dirigeants de compagnies américaines affirment que la vie des noirs compte. De nouveau, Ohanian.
Je le dis en tant que père qui veut être à même de répondre à sa fille noire lorsqu'elle demandera qu'elle a été votre contribution.
Sur 500 des plus grandes compagnies américaines, 4 seulement ont des PDG noirs, rapporte le magazine Fortune, un chiffre qui donne une idée du chemin à parcourir pour une meilleure représentation de la communauté noire des États-Unis. À la faveur de manifestations qui ont pris une ampleur mondiale, de plus en plus de compagnies proposent des solutions. Apple, par exemple, a décidé d'accroître le nombre de fournisseurs noirs. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé pour sa part un don additionnel de 10 millions de dollars au groupe œuvrant pour la justice raciale. Même son de cloche du côté de Google, dont le PDG Sundar Pichai promet d'accorder une aide de 12 millions de dollars aux organisations luttant contre les inégalités raciales. YouTube compte allouer 100 millions de dollars aux créateurs de contenu noir et Bank of America s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur 4 ans dans la lutte contre les inégalités ici aux États-Unis. Darnell Hunt est doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université de Californie à Los Angeles.
When you see people taking to the streets like they did, you know something has happened.
Lorsque vous voyez les gens descendre dans la rue, vous savez qu'il se passe quelque chose, que c'est le début de mouvement. Ce n'est plus comme d'habitude. Et je pense que les compagnies le comprennent et se disent, « Minute, quelque chose de différent est en train de se passer. » Et nous ne pouvons continuer d'agir de la même manière que par le passé.
Il ne s'agit pas seulement de questions d'argent, mais aussi de politiques pratiquées par les entreprises. Ainsi, la compagnie Walmart a cessé d'enfermer derrière une verrière les produits de beauté destinés aux Noirs après des plaintes selon lesquelles c'était un signe de méfiance à l'égard de clients noirs. Amazon a annoncé début juin un don de 10 millions de dollars aux organisations travaillant à la promotion de la justice et de l'équité. La compagnie a, par ailleurs, gelé l'utilisation par la police de son logiciel de reconnaissance faciale, certains ayant fait remarquer que le logiciel est susceptible de confondre les personnes de race.
Abdourahman Dia avec vous.
Cette semaine dans Washington Forum, à plus de 4 mois de la présidentielle américaine, le président Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden sont à l'assaut des électeurs. Une campagne qui se tient alors que les États-Unis continuent d'être le pays le plus touché par la pandémie de COVID-19. À quelques semaines des conventions républicaines et démocrates, la gestion de la pandémie, l'économie et la question raciale semblent dominer les débats. Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 2 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA et VOA.com.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com.